Bon, on n'est pas en septième manche, pourtant, mais on fait Take Me Out to the Ball Game parce qu'on va peut-être l'entendre ici à Montréal. Mario Langlois se joint à nous.
Allô, Paul.
Et Ray Lalonde,
que vous connaissez bien. Bonjour, Mario.
Expert en marketing sportif. Et c'est très drôle parce que Mario a fait une entrevue avec Ray hier. Alors, moi, je remontais, puis je vous écoute toujours l'après-midi. Et il demande à Ray Lalonde, « Penses-tu les chances d'un déménagement de franchise des Rays? » Et Ray, tu as dit à Mario, « Ah, mon feeling, c'est qu'on va tout faire pour garder l'équipe dans la région de Tampa-Saint-Pete. » On apprend aujourd'hui que la direction de l'équipe a demandé au baseball majeur la possibilité de tenir des matchs dans une autre ville, dont Montréal.
Ouais. C'est quand même... C'est pas la première fois que ça surgit, là, ce dossier-là de partager un calendrier. Et là, je parle pas des Expos et Porto Rico. Là, je parle du dossier Expo et Rays. Je vais l'analyser de façon bien froide parce que c'est encore de la spéculation. Ils ont eu une permission, une autorisation pour poursuivre les discussions. Ça veut pas dire que ça va arriver. Ça veut pas dire qu'ils ont encore mis toutes les barres CT puis les points CI pour être capable de trouver vraiment les réponses aux questions fondamentales qui vont se poser. Par exemple, on a-tu besoin d'une équipe de gestion à Montréal puis une autre à Tampa? Est-ce qu'on change le nom de l'équipe quand elle arrive à Montréal puis ça redevient les Expos? Par exemple, est-ce qu'on a affaire à des demi-billets de saison pour les acheteurs? Comment quelqu'un investit dans cette équipe-là? Tu comprends-tu? Il y a beaucoup de sujets sans réponse parce qu'on semble le considérer de façon très sérieuse.
Si tu analyses ça de façon purement rationnelle avec des chiffres, là, c'est un scénario intéressant de dire « Hey, nous autres, on n'est pas sûr, on veut pas mettre de toit sur un stade à Montréal, on aimerait ça garder ça à petit budget, puis on n'est pas sûr que le monde viendrait pendant 81 matchs par année, on a eu de la difficulté dans le temps, on en prendrait 50 au cœur de la saison, comme à travers les festivals, et là, les Rays, eux autres, ben, gardent leur baseball, puis gardent une équipe en début de saison. » Tu sais, mais à partir du moment où là, tu tombes dans ce qui est la nature du sport professionnel, dans l'attachement émotif, tous ces scénarios rationnels-là prennent le bord. Parce que tu dis, est-ce que moi, comme amateur, je vais encourager les Rays de Tampa comme étant mon équipe ou comme étant peut-être ma future équipe, mais je suis pas sûr que ça va être ma future équipe parce que l'autre bord aussi veut construire un stade à Tampa puis finalement, ils vont peut-être retourner là à temps plein. Ouais. Alors, il y a quelque chose de nébuleux quand même.
Puis là-dessus, je rajouterais, Mario, c'est un très bon point, c'est que imagine les gens à Tampa, d'autres, on passe à Montréal parce qu'on veut un club. Mais à Tampa, là, ils vont dire, OK, fait que nous autres, on les supporte déjà à raison de 14 500 par match, ce qui est loin du sommet, plutôt vers le bas. On a une des plus basses masses salariales à 65 millions de dollars. Notre propriétaire n'investit pas dans l'équipe pour des joueurs de qualité. Puis nous autres, on est supposé supporter cette équipe-là en avril et mai, quand il fait moins beau à Montréal.
Ouais, non seulement ça, ce serait du jamais vu. Écoute, j'ai essayé de trouver là un équivalent d'équipe bicéphale à deux têtes. Et puis, ma seule comparaison, puis elle est boiteuse, ça se compare pas, c'est les Packers de Green Bay qui allaient disputer des matchs à Milwaukee. Ouais. Mais là, encore là, c'est les Packers de Green Bay et ils vont à Milwaukee dans le même état.
Ouais, c'est pas loin.
Et c'est pas loin. C'est un peu comme Montréal-Québec.
Exactement.
Donc, mais, ça fait pas de sens.
Mais oui, mais il doit y avoir un sens quelque part. Et là, c'est là qu'il faut gratter en dessous des premières couches qu'on vient d'analyser. Et là, tu te dis, t'as deux marchés où on tente d'obtenir un stade. C'est pas fait le nouveau stade à Montréal non plus. Il reste encore quelques... Il faut encore régler quelques dossiers. Il faut arrimer quelques dossiers. L'achat du terrain, que je sache, n'est pas complété. Le train électrique va-t-il vraiment passer là où on veut? Donc, il y a encore des leviers à agiter. À Tampa Bay, c'est la même chose. J'ai entendu, je le prendrai pas à mon crédit, j'ai trouvé que c'est une analyse intéressante d'un gars qui est très bien coté par le baseball majeur, Jeff Blair, qui a fait carrière à Montréal en suivant les Expos longtemps, et qui émettait l'opinion suivante, et que je trouve qui tient la route, c'est que lui, son interprétation, c'est que c'est comme si on engageait une course entre deux villes pour savoir qui, la première, va enclencher le processus de bâtir son nouveau stade. Et ce faisant, hériterait donc de l'équipe en permanence.
OK, alors moi, à ça, je réponds à la question suivante. Alors, mettons qu'il y a une course, puis c'est le premier qui arrive avec le nouveau stade moderne qui va dépenser 600-700 millions pour y arriver. OK. Fait que là, soudainement, ça serait la fin de l'autre et des espoirs de Montréal si jamais Tampa se retrouverait ou on serait encore mis de côté temporairement pour attendre un jour qu'une équipe nous soit donnée à temps plein par l'expansion ou par une autre localisation.
Ou un autre scénario. Ou bien tu te comportes en très bon partenaire du baseball majeur en accommodant une situation qui est pas facile comme à l'époque on a vécu en disant on va être des bons joueurs, on va jouer le jeu avec vous, venez disputer des matchs ici pendant l'année, mais oubliez ne nous oubliez pas quand viendra le temps de donner une équipe d'expansion. Autrement dit, on va vous aider à garder le bébé pendant une couple de semaines.
Je pense que M. Bromfen ferait ça. Mais pendant ça là, en passant, il y a des villes comme Charlotte, Portland, Mexico City.
Mais c'est pour ça
qu'ils veulent un club aussi et qui n'ont pas encore déposé leur propre candidature, mais qui sont en discussion avec Major League Baseball.
Je tiens à rappeler que les Expos de Montréal, dans leur lente agonie, c'est épouvantable la mort des Expos. C'est effrayant.
À cause du baseball majeur, en grande partie. Tout le monde, là, mais le baseball majeur a son mot à dire là-dedans.
T'as raison, Mario. Mais je tiens à rappeler, pour les gens qui l'avaient oublié, que les Expos ont été obligés d'aller disputer des matchs à San Juan de Porto Rico.
Mm-hmm.
Et c'est comme si, à ce moment-là, on a confirmé la mort de l'équipe. On savait qu'il n'y aurait pas de lendemain.
Il n'y avait pas d'avenir.
Il n'y avait pas d'avenir.
Non, absolument.
Et pour les amateurs de Tampa Bay, j'imagine que ça va être reçu un peu comme un signal semblable.
Mais voyons, c'est difficile. Il n'y a déjà pas de monde.
C'est difficile de faire
si
en sorte
Tampa Bay,
de créer de l'espoir.
Exact.
Ben, oui,
j'ai pas de raison.
C'est une liaison spéciale. Une liaison d'un amateur avec son équipe, là, c'est quelque chose d'intense.
Mais Mario pose la bonne question. Il dit, ça peut avoir l'air pratique. On commence la saison dans la chaleur. À Tampa. Puis après ça, quand il se met à faire beau, on s'en vient à Montréal. Mais le sentiment d'appartenance...
C'est là que le bas blesse.
Mario, regarde le sentiment d'appartenance avec la victoire des Raptors.
Exactement.
Les Raptors ont rallié le Canada au complet, pas seulement la ville
comme
de Toronto.
Comme jamais vu dans le pays.
Alors, pousser derrière une équipe qui va venir disputer, je ne sais pas, 60 matchs, 40 matchs.
Ouais. Peut-être que le Québec va acheter une pointe de la Floride et on va faire des forfaits en avril et en mai pour les amateurs de baseball qu'ils aillent encourager.
Ça dit quoi aux propriétaires potentiels à Montréal, M. Bromfen, M. Garber et les autres? C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore apte à accueillir une équipe à temps plein?
C'est ça.
Attention, il y a bien des façons d'interpréter ça.
Je vais te le retourner de bord, celle-là. Est-ce que les actionnaires puis les promoteurs de l'idée de ramener le baseball majeur à Montréal sont-ils prêts, eux, à replonger à 100% avec tous les investissements que ça implique? Et est-ce que c'est une façon de tester la température de l'eau en attendant? Parce que si ça n'avait pas été si tiède dans le temps, les Expos ne seraient pas partis comme ils sont partis.
Ouais.
Ray, je rappelle ce que je disais à Mario il y a une heure. Selon le Tampa Bay Times, le journal, une telle entente ne pourrait pas être mise en place avant 2023 parce que les Rays ont un contrat avec la ville de Saint-Pétersbourg qui assure la tenue de leur match en Floride, à Saint-Pétersbourg, jusqu'en 2027. Et que, selon les clauses du contrat, ils pourraient quitter cette entente 4 ans plus tôt. Donc, ça ne pourrait pas se faire avant 2023.
Non, exactement. Et moi, ce que je pense que la conclusion de ça, c'est qu'encore une fois, c'est de la spéculation. C'est dangereux, ces choses-là, ces rumeurs-là, parce qu'on n'a pas les réponses, puis il y a beaucoup d'incertitudes dans un marché comme Montréal. Et pendant ça, là, Mario, tu l'as dit tout à l'heure, les deux villes tentent de mettre en place des infrastructures de nouveaux stades qui engagent des coûts importants pour le peuple, pour les propriétaires privés. Et ça demeure un dossier très, très sensible.
Il y a de la spéculation parce qu'on est en absence de réponse, mais il y a quand même un fondement de vérité là-dedans. Ne sous-estimons pas les liens de coulisses entre Sternberg, le propriétaire des Rays, et Steven Bronfman, et le baseball majeur. Et Steven Bronfman qui, comme par hasard, avait un feeling qu'il allait se passer quelque chose cet été. Et Michel Labrec, qui avait déjà été sollicité comme à l'Aério pour des dates, pour bloquer des dates la saison prochaine. Mais on s'était empressé de dire non, il n'y a rien là. Ah, il n'y a rien là, Paul. Non.
Alors,
il n'y a jamais rien là, mais il y a toujours un petit quelque chose, par exemple.
Je vais remercier Reid d'être venu parler de tout ça aujourd'hui. Et Mario, tu as à peu près 30 secondes pour nous dire, est-ce qu'il se passe d'autres choses dans le monde du sport?
Veux-tu savoir ce que Marc Bergevin a dit? Ah, là? Le pape a parlé aujourd'hui. Alors, Jordy Ben va tester l'autonomie. C'est pas des grosses nouvelles, mais il reste que les gens veulent le savoir. On va le laisser aller tester l'autonomie. On s'est pas entendu sur une offre de contrat. Michael McCarron, on lui donne une autre offre de la dernière chance. Il va jouer son avenir avec les Canadiens au camp d'entraînement, mais on lui donne une année. Il pourrait jouer à Laval. Par rapport à Charles Hudon, il pense encore que, en tout cas, il dira pas qu'il va essayer de l'échanger encore pour un choix en fin de semaine, mais il en parle comme d'un gars qui espère va surprendre au prochain camp d'entraînement. On ouvre la porte à l'autonomie pour combler un poste à la ligne bleue, à l'autonomie complète. En gros, ce sont les lignes. Marc Bergevin, vous l'entendrez émission ce soir. Le Canada qui a perdu en Coupe du monde féminine cet après-midi contre les Pays-Bas 2-1.
2-1. Et à 17h50, j'ai un bonus. Je peux te reparler
Ben oui.
du dossier des Alouettes.
Oh, oui. Le dossier hey, on n'en a même pas parlé.
Hey, Ray, c'est une télé-réalité. C'est-à-dire radio-réalité, parce qu'on en parle tellement ici. Là, Stark, un des, oui. des futurs...
C'est pas Iron Man, là.
Non, c'est pas non. Stark. C'est pas Tony
pas
Stark.
Pas le même.
S'associerait avec Eric Lapointe oui. pour mettre la main sur les alouettes.
Mais eux autres, ils doivent l'appeler Eric, parce que dans le fond, oui, il semble qu'on cherche encore des porteurs de valises ici pour diriger les alouettes.
Merci à vous deux. Il est 16h36.